Ensuite, vous êtes devenu moine orthodoxe à cause, ou plutôt, je devrais dire, grâce à l'iconographie. Et le Père Antoine dit, je connais les deux traditions. Et ça, c'est bien aussi. Il est desservant, c'est le nom qu'on emploie, de la paroisse orthodoxe Saint-Basile de la Beaujoire, qui est juste à côté de l'église d'ailleurs. Hein. Il habite dans une jolie bourgade, à Saint-Florent-le-Vieil, où il anime un atelier d'iconographie. Alors, avant de lui donner la parole, parce que c'est lui le plus important, avant de lui donner la parole, juste une petite touche. Quand nous sommes allés le rencontrer, nous l'avons écouté, nous avons dialogué, nous avons regardé les icônes avec un autre regard aussi, nous avons lu les icônes avec un autre regard, et après un long entretien, tout en disponibilité avec le Père Antoine, nous sommes sortis, nous étions pleins de tranquillité, de sérénité, avec quelque chose comme l'âme en paix. Voilà.
Merci. Je suis impressionné d'avoir à parler devant une grande assemblée comme les vôtres, mais je vois 300 icônes devant moi. Hein. Dans la tradition, dans la liturgie, on encense les icônes et puis après on se retourne vers les fidèles pour encenser toutes les icônes vivantes. Alors c'est ce que vous êtes. En deux mots, le but de cette conférence que j'appelle « Les images dans la liturgie » est de montrer le rôle des images que j'appelle sacrées au-delà de ce qu'elles montrent. L'usage des images dans la liturgie, elle a deux fondements essentiels, l'incarnation de Jésus-Christ et l'espérance eschatologique. C'est peut-être un grand mot, ça veut dire tout ce qui est relatif aux fins dernières, on va dire l'éternité. La liturgie est une adoration de la parole faite chair et signe du royaume qui vient ou ressuscité en une chair visible sur une terre nouvelle et sous de nouveaux cieux, nous verrons Dieu face à face. Il est donc normal qu'elle utilise l'image aussi bien que la parole et la musique pour exercer notre regard à la vision du monde à venir par la vision du Dieu incarné, des événements de sa vie terrestre et des saints qui le glorifient. Dans l'Ancien Testament, le deuxième commandement interdisait la représentation de la créature en vue d'un culte à lui rendre. Tu ne feras aucune image taillée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut ou sur la terre ici-bas ou dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant eux, c'est-à-dire les dieux que l'image représenterait, ni ne les serviras, car moi, Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Le deuxième commandement condamne la religion naturelle et l'idolâtrie. Celui qui connaît le vrai Dieu ne peut se faire des représentations de la divinité à partir de la création et ne doit pas rendre un culte à la créature ainsi figurée dans l'image. Dieu, dans l'Ancien Testament, n'est pas visible. Il se cache. S'il se manifeste, c'est par l'intermédiaire des anges. Aussi, Dieu donnera l'ordre à Moïse de façonner deux chérubins d'or aux deux extrémités du propitiatoire. Le propitiatoire, c'est le couvercle de l'arche. À 5 chapitres de distance, dans le livre de l'Exode, le deuxième commandement est l'ordre de faire des chérubins n'ont jamais été considérés comme contradictoires. Selon le deuxième commandement, il ne faut pas vouloir visibiliser Dieu par des moyens naturels en inventant des représentations de la divinité à partir de la création. Selon l'ordre donné de façonner les chérubins du propitiatoire, il est permis de signaler la présence de Dieu par la représentation de ceux que la révélation nous donne comme ses messagers. Cela nous montre à la fois que Dieu, révélé dans sa parole, interdit aux siens une religion et un culte à partir de la nature, et qu'il permet la représentation des chérubins qui visualisent sa présence dans le temple. C'est là que je te rencontrerai, c'est du haut du propitiatoire, de l'espace compris entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage, que je te communiquerai les ordres destinés aux enfants d'Israël. L'image des deux chérubins délimite un espace, un lieu, où Dieu invisible se rend sensible à son peuple. D'autre part, aucun culte n'est rendu à ces chérubins d'or. L'adoration s'adresse au Seigneur, à sa parole, au témoignage que les chérubins signalent à l'attention du peuple. L'image est donc ici un signe qui rappelle la présence de Dieu et qui oriente vers sa parole. L'Ancien Testament ne connaîtra que les anges comme visualisation de la présence et de la parole de Dieu. À l'incarnation du Fils de Dieu, dans une chair semblable à la nôtre, Dieu devient visible par un corps humain. Le fait de l'incarnation, s'il a un sens actuel, concrétise et rend visible pour nous, dans un être humain, Jésus, la présence du Dieu invisible. Si nous réfléchissons à notre manière d'imaginer Dieu, de nous le représenter quand nous prions, nous voyons apparaître le visage du Christ. Et cela est parfaitement légitime, conforme à l'intention de Dieu lorsqu'il s'est incarné pour être avec nous, Emmanuel. L'image de notre imagination n'est pas plus légitime que l'image concrète qu'un artiste peindra. Il se peut même qu'il y ait dans l'image liturgique, fidèle à la Bible et au dogme, un correctif heureux à l'imagination individuelle peut-être mal éclairée. En ce sens, l'image a un rôle d'assistance à la parole de Dieu. Non seulement elle rappelle sa présence, mais encore elle oriente vers sa parole. Lors de la querelle des images dans l'Église au 8e et 9e siècle, les orthodoxes favorables aux images ne défendaient pas l'art, mais bien le dogme de l'incarnation et toutes ses conséquences. Si l'Orient était très préoccupé par cette querelle, l'Occident l'était beaucoup moins. L'Orient chrétien a eu, et a encore, une théologie de l'image, en relation avec le dogme de l'incarnation, tandis que l'Occident a toujours plus ou moins toléré les images comme la Bible des analphabètes, sans leur attribuer une vraie place pédagogique. Mais si nous reconnaissons la légitimité de l'image comme conséquence de l'incarnation, quelle est sa relation avec l'Écriture et avec les signes sacramentels, avec l'Eucharistie, signe de la présence réelle du Christ? Et qu'est-il permis à l'image de représenter? Si nous nous reportons aux apparitions du Christ ressuscité, avant son ascension, nous allons comprendre qu'en redevenant invisible à nos yeux, il veut nous donner, avec le Saint-Esprit, diverses formes visibles de sa présence. Lorsqu'il apparaît aux disciples d'Emmaüs, il ne se fait pas reconnaître dans son humanité. Eux, qui le connaissaient bien, le prennent pour un habitant de Jérusalem, bien ignorant des événements terribles qui viennent de se produire. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et Jésus, loin de les détromper immédiatement, commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, leur interprète dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Il aurait pu les rassurer et les consoler, affermir leur foi en se montrant immédiatement comme leur ressuscité. Or, il va devoir les quitter pour retourner au Père. Il veut leur donner une assurance et une consolation durable. C'est ainsi qu'il leur révèle l'Écriture comme un signe de sa présence et de sa victoire. L'Écriture est une forme de la présence du Christ après l'ascension. Arrivé au village, il se met à table avec eux. Or, une fois à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Après leur avoir découvert le mystère de l'Écriture, signe sensible de sa présence, il leur rappelle, par la fraction du pain, le repas de la Sainte Cène qu'il a institué comme sacrement de son corps et de son sang. L'Eucharistie, corps du Christ, est une autre forme de sa présence qui devra les assurer et les consoler dans leur foi. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il avait disparu de devant eux. Et les disciples s'étonnent de leur incrédulité. Ils auraient dû le reconnaître dans sa parole, comme ils l'ont reconnu dans le sacrement. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Et eux, de raconter ce qui s'était passé en chemin et comment il l'avait reconnu à la fraction du pain. L'Écriture et l'Eucharistie, deux formes différentes de la présence du ressuscité pour les assurer et les consoler dans la foi par le Saint-Esprit. Ailleurs, Marie-Madeleine prendra le Christ ressuscité pour le jardinier, et elle le reconnaîtra quand il dira son nom, Marie. Les disciples péchants prendront Jésus pour un passant jusqu'à ce qu'il leur fasse accomplir la pêche miraculeuse. C'est le Seigneur, s'écrie le disciple que Jésus aimait. Ainsi, le ressuscité vient apparaître aux siens sous deux formes humaines, et ils ne le reconnaissent qu'à sa parole ou sur un geste bien à lui. C'est comme si le Christ voulait accoutumer les disciples à le voir dans leur prochain, dans leur frère, dans l'Église. L'Église, société des hommes, attaché au Seigneur et reproduisant sa parole et ses gestes, est vraiment le corps du Christ, signe de sa présence vivante. Ces signes visibles sont divers dans leur forme, dans leur efficacité, mais tous, ils signalent la présence du Christ et la communiquent aux hommes. Mais qu'avons-nous besoin d'autres signes que la parole, les sacrements et l'Église du Christ? Il faut voir l'image comme une façon de communiquer la parole de Dieu contenue dans l'Écriture. Une image est une sorte de prédication, une belle écriture de la parole de Dieu. Mais pour cela, elle doit être fidèle à la révélation. Une image du Christ, la représentation des événements bibliques, c'est une façon de prêcher et de transcrire la parole de Dieu en même temps qu'une action de grâce pour la beauté, pour les merveilles de Dieu. Et cela n'est possible que parce que Dieu s'est rendu visible en Jésus-Christ. Cela est possible et même nécessaire, c'est le fait de l'incarnation qui conduit l'homme à imaginer Dieu, et si cette image n'est qu'intérieure, elle peut être trop individuelle. L'image liturgique, fidèle à l'Écriture et à la piété de l'Église, corrigera cette imagination dans un sens plus biblique et plus communautaire, donc plus vrai. Ici, nous sommes conduits à la nécessité d'une certaine règle dans l'image liturgique. Certes, il est permis à tout artiste de représenter le Christ et l'Évangile selon sa propre inspiration. Mais lorsqu'il travaille pour le sanctuaire, pour la liturgie, il est normal et nécessaire qu'il se pénètre de l'Évangile, de la liturgie et de la tradition spirituelle de l'Église pour donner à sa libre inspiration une orientation, celle de l'adoration du Seigneur et du service de l'Église en prière. L'Occident s'est moins préoccupé que l'Orient des règles de l'image liturgique. On ne peut qu'admirer le souci théologique des orthodoxes dans la peinture des icônes. L'icône représente à la fois le désir d'être conséquent avec le mystère de l'incarnation et celui d'être fidèle à la parole de Dieu. Si l'image est une façon d'annoncer la parole en adorant le Seigneur, elle participe aussi au mystère de la communion des saints. Elle est un moyen de rappeler la présence de toute l'Église et des anges dans la célébration eucharistique. L'icône d'un saint est un rappel de sa foi, de sa charité et de sa prière dans la grande communion, dans la grande communauté chrétienne universelle. Quoi de plus profondément ecclésial? Quelle proclamation plus authentique du mystère de la communion des saints dans l'Eucharistie que toutes les icônes des patriarches, des prophètes, des apôtres, des martyrs, de la Vierge Marie, de Saint Jean-Baptiste, des anges, des saints, sur l'iconostase et les parois d'une église orthodoxe. Les icônes qui couvrent les murs de l'église du monastère orthodoxe de Mars Abbas en Syrie, par exemple, sont une évocation puissante du royaume de Dieu et situent la liturgie dans une perspective authentiquement eschatologique. Après avoir considéré l'image dans sa relation avec le fait de l'incarnation, nous sommes amenés ici à l'envisager dans son rapport avec l'eschatologie. À la fin des temps, le Christ reviendra dans la gloire et chacun le verra, même ceux qui l'ont transpercé. C'est l'Apocalypse qui nous dit ça. Alors se produira la résurrection de la chair et nous verrons un ciel nouveau, une terre nouvelle. La révélation nous présente le royaume de Dieu comme une réalité concrète et visible, une cité sainte, un festin de noces. Comme Dieu s'est rendu visible en son Fils incarné, il se montrera dans son royaume pour l'éternité. L'image liturgique nous oriente vers cette visibilité du royaume. Elle nous conduit à la contemplation du Christ, à son retour au milieu de tous les saints. L'image doit être une ouverture sur la cité sainte. Elle doit stimuler notre espérance en la résurrection de la chair. L'image liturgique, l'icône, est comme une fenêtre ouverte sur le ciel nouveau, sur la terre nouvelle. Il faut que l'on puisse voir, comme au travers et au-delà de l'icône, la réalité encore invisible du royaume. Cela implique un certain style du dessin, un traitement de la couleur qu'il ne nous appartient pas de définir, mais les artistes liturgiques auront beaucoup à apprendre des icônes anciennes, comme s'ils veulent et doivent être très modernes. L'icône orientale, grâce aux règles théologiques imposées, offre le maximum de fidélité biblique et d'objectivité ecclésiale. La structure du dessin, les couleurs profondes, les ors donnent ce reflet d'incarnation et d'eschatologie indispensable à l'authentique image liturgique. L'icône plate, d'autre part, évite au maximum un certain humanisme que la statue entretient souvent dans la piété. Une vie intérieure, nourrie par la parole de Dieu, à l'aide d'icônes liturgiques authentiques, ne risque pas de dévier dans la sensiblerie ou la mièvrerie sulpicienne. Or, l'Occident n'a pas été assez vigilant dans sa tolérance des images comme Bible des simples. Il s'est insuffisamment placé à un plan théologique pour accueillir l'image comme conséquence de l'incarnation et de l'eschatologie, plutôt que de la tolérer pour les foules qui en ont besoin. Aux périodes de purification, on casse alors les statues, on les relègue dans les chapelles. On n'a pas, comme dans l'orthodoxie, un critère qui permette d'éviter la dévotion sensiblard des mièvres, des innombrables statues de sucre, comme également l'ardeur iconoclaste des périodes de purification qui ne veulent plus que le dessin outreille les profils en fil de fer. Pardon si je blesse vos sensibilités. Pourtant, il faut reconnaître que l'Occident a perdu quelque chose dans son art liturgique. Regardons par exemple la période romane. Et nous voyons que l'esprit qui anime l'architecture, la statuaire, les fresques, les vitraux sans parler de, oui, de l'architecture, c'est le même esprit qui anime l'iconographie orthodoxe encore aujourd'hui. Il est donc plus juste de dire que l'iconographie n'est pas le propre de la seule Église orthodoxe, mais plus exactement de l'Église indivise. On appelle l'Église indivise l'Église d'avant les divisions, en gros la première période du premier millénaire. Et on pourrait dire, tout n'est pas perdu si on retrouve cet esprit-là. L'image liturgique n'est pas un tableau de famille posé sur un autel comme une photographie, sur une commode de grand-mère. Elle doit avoir une réelle fonction liturgique. L'iconostase orthodoxe est composée selon des principes hiérarchiques et symboliques précis. Sans désirer l'établissement anachronique de l'iconostase en Occident, on pourrait souhaiter que les églises possèdent tout un jeu d'icônes correspondant aux différentes fêtes du et temps de l'année. Par exemple, l'Annonciation, la Nativité. Mais je sais que ça se fait déjà dans certaines églises. Les noces de Cana, la Transfiguration. Selon la fête, les icônes correspondantes pourraient être disposées au regard des fidèles dans la nef. Cela n'exclut pas, bien entendu, la fresque, la mosaïque et le vitrail. Mais ceci devrait être représenté des thèmes essentiels et généraux de l'Évangile et des figures de saints selon une disposition symbolique et hiérarchique comme l'iconostase. Cette représentation de l'icône de fête sur un lutrin, comme dans les églises orthodoxes, on est ici à Thésée, donne à l'image liturgique une vraie fonction dans la célébration. Elle n'est pas là pour faire joli ou parce qu'on la tolère pour les simples. Elle est associée à la liturgie comme une forme de prédication et d'adoration, comme un rappel de la présence et de l'actualité des mystères de la foi et de la charité des saints dans la prière. Et si le pape François encense à Saint-Pierre de Rome l'icône du Christ en majesté, c'est parce qu'elle rend présent, le Christ. Dieu s'est rendu visible en Jésus-Christ, le Fils incarné. Il n'est pas possible de représenter le Père ou le Saint-Esprit. Les anges pourront évoquer la présence du Père et la colombe ou le feu, celle du Saint-Esprit. Car c'est par ces intermédiaires que la Bible signifie leur présence. L'icône de la Sainte Trinité peinte en 1425 par André Roublev pour le monastère de la Sainte Trinité à Moscou est le type le plus achevé de l'icône représentant Dieu dans son mystère. L'artiste n'a pas eu la témérité de représenter la personne du Père ou du Saint-Esprit. Les trois personnes de la Trinité sont discrètement évoquées par les trois anges qui visitèrent Abraham sous le chêne de Mambré. Le Concile des 100 chapitres en 1551 à Moscou l'a cité comme modèle à juste titre. C'est un chef-d'œuvre de l'art de l'icône, profondément religieux et parfaitement respectueux de la parole et de son mystère. La personne du Christ et les événements de l'Ancien et du Nouveau Testament représentés sur les icônes rappellent la présence de Dieu qui s'est incarné, la présence et l'actualité des mystères de la foi. Ces icônes du Christ et des événements du salut sont en relation avec la parole de Dieu lue et prêchée. Une invitation à l'adoration du Seigneur pour les merveilles de son amour. Les icônes des saints, elles rappellent la communion de l'Église avec tous les témoins et martyrs qui attendent la résurrection dans la vision céleste et dans la prière et la charité, et dont la prière et la charité sont un stimulant pour la ferveur des fidèles. Les images des saints sont en relation avec le mystère de l'Église universelle, présente dans la célébration eucharistique du corps du Christ. Nous avons vu le sens de l'icône dans la liturgie comme une expression de la parole et un symbole de la communion des saints dans le corps du Christ, comme une invitation à l'adoration du Seigneur parmi les anges, les témoins et les martyrs de tous les temps. Il nous reste enfin à préciser le rapport théologique entre l'icône, la parole et le sacrement. Nous avons montré l'icône comme une expression de la parole de Dieu, mais cela doit s'entendre dans un sens symbolique. L'image liturgique est une manière de copier l'écriture dans de beaux caractères artistiques. Elle peut être une manière de prêcher. Elle n'est de toute façon qu'un symbole, qu'une expression qui renvoie à l'original, la parole de Dieu, contenue dans toute la Bible. Dans l'icône, nous avons une interprétation qui se veut fidèle dans l'Écriture sainte. Nous avons la parole de Dieu elle-même. L'icône est un symbole de la parole de Dieu. L'idolâtrie consisterait précisément à s'arrêter à l'icône, à se laisser capter par elle, sans la dépasser pour contempler Dieu dans sa parole. Nous avons montré l'icône comme un symbole de la présence de Dieu. Elle l'est, au sens où les chérubins du propitiatoire signalaient la présence de Yahvé dans le temple et attiraient l'attention sur le témoignage et la parole vivante du Seigneur. C'est du haut du propitiatoire, de l'espace compris entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage, que je te communiquerai les ordres destinés aux enfants d'Israël. C'est entre les icônes et bien au-delà d'elles qu'il faut chercher la présence du Seigneur. Mais elles sont là, comme des signaux, qui désignent un espace, et cet espace est pour l'Église la parole et le sacrement. Si les images liturgiques sont des symboles qui signalent la parole et la présence de Dieu, la parole de l'Écriture lue et prêchée est la parole de Dieu. L'Eucharistie est la présence du Christ, de son corps. Les icônes sont les chérubins d'or du propitiatoire. L'Eucharistie est l'espace où il faut chercher la présence du Seigneur. L'Écriture, c'est le témoignage de l'arche, et la parole lue et prêchée à l'Église, c'est la communication des ordres du Seigneur aux enfants d'Israël. La liturgie eucharistique est par excellence la rencontre avec Dieu. C'est là que je te rencontrerai. Nous avons montré les icônes des saints comme un symbole de la communion des membres de l'Église, corps du Christ. Ce rappel doit nous stimuler à rechercher la réalité de la communion des saints dans la communion au corps et au sang du Christ, dans l'Eucharistie, qui fortifie la communauté de l'Église, puis dans la charité, qui fait de la vie chrétienne une constante Eucharistie. Nous avons compris là dans l'Église comme une louange à Dieu en même temps qu'un rappel de ses merveilles. Les icônes nous sont apparues éminemment dans cette perspective du mémorial, un symbole de la parole et de la présence du Seigneur, de la présence des saints, une invitation à l'adoration. Les icônes sont une louange à Dieu par le rappel de ses merveilles et par leur beauté. Elles signifient aussi l'actualité des mystères de la foi, des événements du salut qui plaident toujours en notre faveur dans l'unité du sacrifice rédempteur de la croix. Les icônes des saints signifient la louange et la supplication de l'Église. La série principale des icônes de l'iconostase orthodoxe, et qu'on appelle la déisis, a exactement cette signification. La Vierge Marie, Saint Jean-Baptiste, les archanges Michel et Gabriel, les apôtres Pierre et Paul, et il peut y en avoir d'autres, tous ont une attitude de supplication devant le Christ sur son trône. Rappelons ici que les chérubins du sanctuaire devaient avoir le visage tourné vers le propitiatoire. N'y a-t-il pas là une sage indication pour la disposition des images liturgiques des saints dans l'Église ? Les icônes des saints doivent indiquer une attitude d'adoration et orienter les fidèles vers l'autel. Elles signifient et orientent le mémorial de l'Église qui adore et prie son Seigneur, qui attend son retour. Elles signifient et orientent l'adoration et la prière. Elles ne doivent point arrêter ou capter l'attention. Nous avons dit déjà que ce serait idolâtrie que de ne point envisager les icônes comme des fenêtres ouvertes sur le royaume, conduisant le regard au-delà d'elle-même vers le Seigneur dans sa parole et dans l'Eucharistie. Si le mémorial de l'icône peut être un signe authentique de la louange et de la supplication de l'Église, il peut aussi, malgré le sujet évangélique, représenter, devenir une idole à laquelle on attribue une puissance magique. Le mémorial cesse alors. Il n'est plus tourné vers le Seigneur, mais il s'arrête à l'icône elle-même et n'est plus que le faux mémorial d'une puissance interne à l'image, une louange et une supplication de l'image magique de l'idole. Le geste d'adoration et de supplication du Seigneur le plus authentique peut se corrompre et s'adresser à une idole. L'Église, qui reconnaît la valeur de l'icône liturgique comme une conséquence du fait de l'incarnation et dans la perspective eschatologique, doit veiller aussi, comme le prophète, à ce que ce mémorial de la louange et de la supplication des fidèles ne devienne pas un écran puis une idole. Pour conclure, et pour bien comprendre l'icône, sa différence par rapport aux autres peintures, nous pouvons évoquer l'utilisation fréquente de la perspective inversée dans l'art iconographique. Voilà, vous avez un petit schéma qui vous dit, normalement dans un tableau, c'est ce qu'on représente à gauche, un point de fuite qui va donner une perspective. Et dans l'icône, on aura le contraire, la perspective, elle est inversée, elle vient vers celui qui regarde. Alors, autrement dit, ça change aussi toutes les perspectives. Cela déroute l'homme de culture européenne. Vous voyez par exemple le livre du Christ, la perspective est inversée, ça se voit peut-être la couverture de face, elle est plus petite que celle de derrière, ça devrait être l'inverse. Donc pour quelqu'un dont l'œil est habitué à la perspective linéaire réintroduite dans l'art depuis la Renaissance, les faits recherchés en utilisant différentes formes de perspectives dans une seule composition est de placer le sujet traité dans un autre monde, dans le royaume de Dieu, transfiguré par la lumière divine incréée. En regardant l'icône de la Trinité, qui est très connue, regardons par exemple les marchepieds pour bien voir la perspective inversée. Hein? En renonçant ainsi à l'illusion de l'espace, en refusant la projection d'aucune ombre et en plaçant son point de fuite vers le spectateur, l'icône frappe à la porte du cœur et le divin vient à la rencontre de l'homme. Ainsi, l'espace et le temps n'existent plus ou sont vus autrement, on pourrait dire, sous le regard de Dieu. La vision change pour nous introduire dans le monde divin, transfiguré, où la lumière n'éclaire plus de l'intérieur, comme on peut le voir sur n'importe quel tableau ou portrait, mais dans l'icône, la lumière vient de l'intérieur. Réaliste, mais pas naturaliste, au sens où il ne reproduit pas la nature telle que nous la voyons. Ces règles que l'iconographe doit apprendre sont donc des canons à respecter. En cela, l'iconographe est un interprète, non un créateur. Mais il dépend de lui d'être plus qu'un copiste. Cela lui demande d'appréhender son service, car c'en est un, avec une grande humilité. Il doit se défaire de bien des habitudes, changer son regard pour écrire en forme et en couleur la parole de Dieu. Il n'invente rien, mais traduit simplement, dans un style propre, l'Ancien Testament et le Nouveau, et il peut reproduire tous ceux qui ont été transformés par la parole de vie, je veux dire tous les saints. Son champ de travail est là uniquement. L'iconographe doit s'effacer, il ne doit pas interférer le message divin. N'oublions pas que l'icône n'est pas d'abord une œuvre d'art, mais un objet liturgique. L'icône utilise beaucoup le symbole, tout comme la parole de Dieu, pour en enrichir le sens et le prolonger. Avant tout, il témoigne de l'incarnation du Verbe de vie parmi les hommes et aussi sa résurrection et par là la nôtre propre. Voilà, j'ai terminé.
Merci Père Antoine. L'heure tourne et c'est vrai qu'on avait pris un petit peu de retard aussi et qu'on est pris par l'autre côté au niveau de l'horaire. Mais s'il y avait une ou deux questions éventuellement, on peut prendre une ou deux questions. Deux ou trois questions. Est-ce qu'il y a des questions? Question là-haut.
Oui, bonjour. Une question que je me suis toujours posée, un peu basique, mais pourquoi les icônes sont très figées et les personnes ne sourient pas? Pourquoi le visage présente une certaine, je dirais, sévérité, surtout les visages du Christ?
Oui, ça c'est vrai. C'est souvent le reproche, le premier reproche qu'on nous fait. Bien sûr, on aime bien les icônes, mais elles ne sourient pas. Alors dans les icônes, on évite de traduire les sentiments, hein. Alors, on peut le faire autrement par le dessin, par la peinture, pour introduire de la douceur. Hein. Mais c'est vrai, les icônes en général, il y en a même de très sévères qui sont presque un contre-témoignage. Je pense que c'est important que l'icône traduise, si ce n'est pas possible, un sourire, un large sourire, au moins beaucoup de douceur. Je ne sais pas si ça correspond.
Voilà. Une autre question ? Colette ?
Il y a quelque chose que vous ne nous avez pas dit, je pense, c'est l'importance des couleurs, le rouge et le doré, donc pour certains saints et pour le Christ en particulier.
D'accord. Les couleurs, bon, elles ont une valeur symbolique. Et en mettant, par exemple, le rouge sur la tunique du Christ, on veut dire qu'il est un homme. C'est la couleur du sang. On va dire sa nature humaine. Il a un manteau bleu, on va dire bleu, couleur du ciel, pour dire sa nature divine. C'est une façon de dire que le Christ a deux natures, humaine et divine. Le doré, l'or, c'est la lumière incréée. Hein. C'est en général dans le fond des icônes ce qu'on va représenter pour les nimbes, pour dire que le saint est sanctifié, et pour dire aussi l'au-delà. Mais je me méfie de l'or, personnellement, surtout aujourd'hui. Je ne sais pas s'il faut en mettre beaucoup. Très souvent, il y a des élèves qui disent « Ah, je viens, mais est-ce qu'on va mettre de l'or sur les icônes ? » On voudrait tout de suite commencer à mettre de l'or. Alors, naturellement, il y a un côté clinquant dans l'or qui me gêne, moi, aujourd'hui. Il y a d'autres icônes où... Mais l'importance, il y a beaucoup d'anciennes icônes où tout était doré.
Père Antoine, vous nous avez dit l'autre jour qu'on dit écrire une icône. Pourquoi oui, écrire ?
Ben justement, déjà le mot iconographie avec le mot graphein grec qui veut dire écriture, c'est un langage, c'est une écriture et j'ai insisté là-dessus, le rapport avec la parole de Dieu. Hein. C'est une façon d'écrire autrement la parole de Dieu.
Une autre question ?
Oui, quelle différence faites-vous entre les icônes, les mosaïques et les fresques ? Parce que vous avez utilisé le terme icône qui, pour nous occidentaux, correspond à cela, mais vous avez manqué beaucoup de mosaïques et de fresques.
Oui, exactement. Pour moi, ce sont des icônes aussi. C'est tout l'art iconographique. C'est exactement le même. On va même l'utiliser dans la broderie. On va faire des émaux cloisonnés. Ce sera toujours avec ce même esprit, cette même perspective. Alors, c'est donc le mot icône dans un sens large.
Question ?
Vous direz si je me trompe, mais il me semble que le bœuf et l'âne ne sont pas proprement bibliques. Et il me semble que dans une icône, j'ai vu le bœuf et l'âne, alors que vous avez dit que les icônes avaient des représentations fondées sur la Bible pour empêcher la subjectivité du visionnaire.
Alors, la présence du bœuf et de l'âne, c'est pour nous renvoyer à d'autres textes de l'Écriture. Alors, je ne sais plus exactement les références, mais il y a un moment dans l'Écriture où on dit que le bœuf revient toujours vers son maître. C'est une indication pour nous de retourner vers notre maître. Et puis l'âne aura encore, dans les évangiles, au rameau, une signification importante. L'animal, au contraire du cheval, qui est l'animal de la victoire, on pourrait dire, et l'âne, au contraire, c'est un animal, le cheval du pauvre, en quelque sorte. Et il faut voir là une signification symbolique. Hein. Mais il y a même une référence dans les Écritures, ça ne me revient pas là tout de suite, le pourquoi il y a l'âne et le bœuf dans la nativité. Ben.
Bien. Alors, on va être obligé d'arrêter pour...
Avant de terminer, une seule question, à quoi sert Est-ce qu'on voit...
Alors, la dernière question.
Voilà, il y a le peintre avec son pinceau et à côté, il y a un outil et on se demande à quoi il servait.
C'est pour peindre, non ?
Oui, ben, c'est-à-dire que quand on travaille à la verticale, il faut un appui. Alors, c'est une perche et il y a un embout qui protège l'icône ou la fresque. Et alors, ça sert avec la main de prendre appui. C'est très difficile de peindre toujours comme ça, la main en l'air. On a besoin d'un appui.
Voilà. Eh bien, écoutez, on remercie beaucoup, beaucoup le Père Antoine qui va officier à la Beaujoire dimanche prochain et qui va s'en retourner tout à l'heure vers... non, après la conférence, hein. S'en retourner vers Saint-Florent-le-Vieil où il anime son atelier d'icônes. Une chose aussi, je dirais quand même, moi, qui nous avait frappé, c'est le temps nécessaire pour faire une icône. Ouf, on était impressionnés. Hein. Voilà.